8h02 sur Radio 6, nous sommes donc le mardi 21 avril 2020, 36e jour de confinement. Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, est notre invité. Bonjour Xavier Bertrand.
Bonjour.
Je précise que vous n'êtes pas dans les studios de Radio 6, mais dans votre bureau à l'agglomération de Saint-Quentin. Cette interview se fait donc par téléphone. Xavier Bertrand, nous traversons une crise sanitaire sans précédent, je viens de le dire. 1127 morts du coronavirus dans la région. Un déconfinement progressif est annoncé par le gouvernement à partir du 11 mai. Est-ce que vous êtes pour une reprise le 11 mai dans les écoles, collèges ou encore lycées ?
Bon, écoutez, à titre perso, moi j'aurais pas pris cette décision. Peut-être parce que je m'étais dit, comme beaucoup de monde et aussi comme parents d'élèves, qu'on reprendrait à la rentrée. Mais je trouve que c'est effectivement très compliqué, très très compliqué. Et puis surtout, je pense à la question de la santé. S'il y a des masques, s'il y a des tests pour tout le monde, c'est pas la même histoire. Mais là, comme on n'a pas beaucoup de visibilité là-dessus. Bon, après, moi mon avis perso, c'est pas ça le plus important, parce que en tant que président de région, on est partenaire de l'État, parce que vous le savez, les lycées, c'est la propriété de la région. Le personnel à l'intérieur pour l'entretien, pour la restauration, c'est aussi le personnel de la région. Donc je suis pas là pour traîner des pieds, je suis là pour trouver des solutions pour que ça se passe le mieux possible. Bon, entendons-nous bien, j'ai pas toutes les infos, mais à partir du 11, ça sera certainement du symbolique. Hein. On n'imagine pas que tous les élèves, de la maternelle jusqu'à la terminale, vont tous reprendre de la même façon. Ça sera, à mon avis, très progressif et ça sera très symbolique. Comment on va réussir ça ? Déjà en travaillant main dans la main avec l'éducation nationale. Et puis surtout, on a ouvert sur le site de la région une page où on dit aux gens, et vous, comment vous voyez la rentrée ? Quels sont les problèmes qui vont se poser ? Et qu'est-ce que vous avez comme idée pour que ça se passe le mieux possible ? Et mon Dieu, on a un nombre de réponses inimaginables et avec des remarques qui sont sacrément de bon sens. Et notamment des agents, des lycées de la région qui disent, mais en collège et en lycée, normalement les élèves changent de classe, allez, bien souvent toutes les heures. Pourquoi on ne ferait pas le contraire ? Pourquoi les élèves ne resteraient pas toujours dans la même classe et que ce soit les profs qui changent de classe ? Bon, écoutez, je suis peut-être pas très malin, mais moi, j'aurais pas pensé à ça spontanément. Mais là, vous voyez, avec des remarques de terrain et des remarques de bon sens. Alors, bien évidemment, les cours de sport, ça marche pas. Les cours de techno, ça marche pas. Mais pour le reste, on peut aussi changer nos habitudes. Et puis, vous savez, ça sera sur la base du volontariat pour les familles. Et puis, ce sera avec des classes où il y aura quoi ? Un tiers, un quart, la moitié des jeunes au grand, grand maximum.
Oui, vous invitez les habitants de la région à donner leurs idées pour préparer au mieux le retour, notamment dans les lycées dont vous avez la charge. Freddy, sur le Facebook de Radio 6, posait une question concrète. Comment ça va se passer dans les cantines ?
Alors sur les cantines, c'est pas encore ça le plus compliqué. Dans les cantines, la seule chose, c'est qu'il faudra qu'il y ait moins de repas. Alors moins de repas, s'il y a moins d'élèves, c'est pas un drame. Mais là aussi, les agents nous ont dit aussitôt, bon, on peut faire respecter dans les files d'attente une distance d'au moins un mètre, là, quand on est avec son plateau et qu'on passe au self à la cantine. Et puis ensuite, il suffit qu'à table, on laisse aussi un écart entre les jeunes. Et bien évidemment, il faut que ça change, parce que vous pouvez pas dire qu'on a des cantines avec 150 jeunes, alors que les restaurants avec 15 ou 20 couverts, ils peuvent pas ouvrir. Mais là encore, s'il y a moins d'élèves, dans ces conditions-là, il y aura aussi moins de personnes à la cantine. Non, ça on sait faire, c'est plus compliqué pour les internats. C'est plus compliqué pour les internats pour les réouvrir, parce que bon, on peut pas dormir avec la même proximité, prendre sa douche aussi dans les mêmes conditions. Et puis il y a aussi un autre sujet, et là encore une fois, c'est les remontées du terrain et le bon sens des gens est formidable. C'est la question des transports scolaires. Alors vous allez me dire, moins de jeunes dedans, oui, mais aussi avec des horaires un peu différents. Parce que les classes, comme pour les transports scolaires, vous pouvez pas reprendre comme avant. Parce que si vous reprenez notamment à 8 heures, aux mêmes heures de pointe que les salariés qui vont commencer à retravailler, vous imaginez les bouchons que ça va être ? Parce que les trains, par contre, il n'y aura pas autant de monde demain qu'il y en avait hier. Si, je ne sais pas, au lieu de 100 personnes, vous en avez 25 ou 30, ça sera le grand, grand maximum. Et puis, vous n'allez pas pouvoir mettre des trains qui se suivent à la queue leu-leu. Donc, vous allez avoir des risques d'embouteillage très importants. Et donc, dans ces cas-là, il faudra que les horaires soient aussi très différents. Pas nécessaire, enfin, ce sera plutôt recommandé de ne pas faire commencer les jeunes tous en même temps, à la même heure, à 8 heures.
Justement, Xavier Bertrand, vous parlez des trains. La région a offert les abonnements pour le mois d'avril, pour les TER. Est-ce que ce sera le cas pour le mois de mai ?
Évidemment. ce qu'il faut, c'est prolonger pour les gens. Vous savez, j'ai un grand principe, hein, il faut aussi se mettre à la place des gens. Et en ce moment, il y a, quand on est au chômage partiel, on a moins de revenus. Et quand vous êtes indépendant, c'est la galère avec beaucoup, beaucoup d'incertitudes. J'en parlais ce matin encore en achetant mon pain avec justement quelqu'un qui est indépendant, qui travaille tout seul mais qui a du mal à se verser son salaire, qui n'a pas de visibilité sur sa trésorerie. Donc il y a beaucoup de gens qui sont inquiets pour la fin du mois. C'est la raison pour laquelle, un, on prolonge la gratuité, l'équivalent de ce qui n'est pas utilisé. Deux, quand vous prenez votre voiture pour aller travailler, que vous avez l'aide au transport de la région, vous continuez à toucher. Alors vous allez me dire, c'est pas logique parce qu'on prend plus sa voiture, on dépense pas. Oui, mais j'ai pas envie justement de m'en prendre au porte-monnaie des gens. L'aide à la garde d'enfants est maintenue, même si je sais on fait plus garder ses enfants, on les garde soi-même. J'ai pas envie de pénaliser même de quelques dizaines d'euros par mois. Et la fameuse carte génération de la région, vous savez, qui permet de faire des dépenses pour la scolarité des lycéens. Normalement, ça s'arrêtait justement à fin avril. On prolonge justement pour que l'on puisse clairement, non pas dépenser pour dépenser, mais tout simplement filer un coup de main aux gens qui ont un pouvoir d'achat qui est sacrément entamé, menacé en ce moment.
Et justement, Xavier Bertrand, vous parlez du chômage partiel des petits salaires. On rappelle que c'est moins 14% sur le salaire. Vous ne craignez pas une nouvelle précarité ?
C'est pour ça que tout l'enjeu, c'est d'essayer de protéger au maximum et d'oublier personne. Donc, sur la question du pouvoir d'achat, bon, je l'ai dit, la région fait ce qu'elle peut. Ça aurait été facile de dire, on circule pas, on verse pas, mais encore une fois, faut se mettre à la place des gens, et puis surtout, essayer de protéger au maximum les entreprises. Alors, parfois on me dit, ouais, mais alors si vous aidez les entreprises, aidez les patrons. Ah non, j'aide les salariés aussi. Et une entreprise, c'est la même barque, c'est le même bateau. Il y a l'employeur, il y a aussi les salariés. Et tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, mais on n'est pas les seuls à faire ça. C'est pas la région toute seule dans 5 coins, ça ce serait stupide. C'est la région avec chambre de commerce, chambre des métiers, les communes et les intercommunalités. Vous savez, les communautés de communes, les communautés d'agglomération et avec l'État, on s'entend très bien, et on essaye de faire le maximum pour qu'il n'y ait personne, vous voyez, qui passe au travers des mailles du filet, avec une attention soutenue, notamment pour les petits, les commerçants, les artisans, les professions libérales, les auto-entrepreneurs, les toutes petites entreprises. Je ne dis pas que les grosses, elles n'ont pas besoin d'être aidées, bien sûr que si, mais c'est souvent les plus petits qui, dans des crises comme celle-ci, sont les grands oubliés et disparaissent. Et eux, j'ai pas envie, justement, qu'ils disparaissent en silence.
Et les petits,
alors, on
vous
a une
dites...
action notamment vis-à-vis des banques, parce que les banques nous disent au niveau national, non mais tout va bien, on est là pour aider. Les banques nous disent, il y a le PGE, le prêt garanti par l'État, vous savez, qui vous permet d'emprunter très vite. Il est là pour tout le monde, mais le prêt garanti par l'État, il y a près de 20 000 entreprises concernées dans la région. Par ce prêt, il y a beaucoup plus d'autres entreprises. Et donc, on doit faire très attention, et on fait aussi attention à ce que les grands discours au niveau national, dans votre agence bancaire, quand vous êtes justement commerçant ou artisan, on vous dise pas, non, c'est pas pour vous, vous y avez pas droit, ou on vous répondra plus tard à la cinglinglin. Donc, honnêtement, on travaille plutôt bien avec le patron du comité des banques au niveau régional, c'est monsieur Roubin, mais lui comme nous, on fait très attention à ce que sur le terrain, il n'y ait pas une différence entre les grands discours et les actes.
Et justement, vous parlez des petits commerçants, on peut parler aussi des artisans, les hôteliers, les restaurateurs, les loyers, ils doivent continuer à les payer alors qu'ils sont fermés?
Attendez, il n'y a pas de chiffre d'affaires et on va payer le loyer? Ils vont faire comment les gens? Ils ont une mine d'or dans leur jardin? Non, faut être sérieux. Moi, je suis intervenu à la fois pour les propriétaires privés et aussi les très grands groupes qui sont propriétaires de galeries marchandes, de galeries commerçantes, pour leur dire s'il y a 0% de chiffre d'affaires, prenez pas le loyer. Prenez pas le loyer, parce qu'autrement, ceux qui sont aujourd'hui vos locataires, ils vont pas tenir. Ils vont pas tenir. Donc, il faut que ce soit le cas. Juste être très précis pour les indépendants, les petits, mais aussi vous avez des chaînes dont on peut penser qu'elles sont costauds. Elles sont moins costauds que ne le sont les grands propriétaires de ces centres commerciaux. Il y en a qui jouent le jeu. Hein, il y en a qui jouent le jeu. Il y a des propriétaires qui jouent le jeu, qui se disent qu'il vaut mieux aménager aménager le paiement des loyers plutôt que de voir disparaître son locataire. Mais il y en a d'autres, notamment des très très grands groupes, qui s'appellent notamment Unibail au niveau français, au niveau international, qui eux sont en train d'être planqués, qui continuent à percevoir leur loyer et qui n'ont pas l'air de vouloir se bouger. Cela, il faut les débusquer, il faut les amener dans le cadre d'un bras de fer à accepter de ne pas toucher les loyers quand il n'y a pas de chiffre d'affaires. Et puis si ce n'est pas le cas, moi je pousse pour que l'État fasse une contribution exceptionnelle sur ces gens-là pour aider notamment les locataires. Vous savez, si on ne fait pas tous ces efforts, tout cela, c'est simple, au final, il y a des commerçants qui ne vont pas rouvrir leurs rideaux. Et ça, ce serait vraiment la pire des choses. C'était des entreprises qui tenaient la route avant. Je veux les retrouver justement après. Élise, j'aurais juste faire une parenthèse sur ce que vous avez indiqué. Les cafés, les hôtels, les restaurants, tout le tourisme, tout l'événementiel, tout le secteur de la culture. Ça, pardonnez-moi, mais ce n'est pas une activité économique comme les autres. Derrière, c'est un peu l'art de vivre à la française. C'est justement l'âme française. Regardez, nos terrasses et tout ce que ça représente. Et là, quand on dit à partir du 11 mai, on commencera seulement à retrouver une activité normale, mais pour eux, on verra plus tard. Et imaginez, vous êtes restaurateur ou salarié de restaurateur, travaillez dans un hôtel, l'angoisse que ça doit être, parce que plus le temps passe, plus les perspectives de reprendre, elles se font petites. Donc, ce qui est vraiment très très important, c'est de prévoir tout un plan de soutien, mais alors vraiment un maxi plan de soutien, et aussi un plan de relance, parce que moi je veux vraiment qu'on les retrouve, et je vous dis, c'est beaucoup beaucoup d'emplois dans la région, sur le littoral chez vous, mais c'est plus que des emplois. Plus que des emplois. Vous imaginez un été sans terrasse, un été sans café au zinc, un été sans restaurant de plage sur le bord de la plage. Non, c'est pas pensable.
Xavier Bertrand, pareil pour Le Monde, par exemple, de la radio, plus aucune rentrée d'argent depuis le début de la crise.
C'est pour ça qu'il faut aussi que vos banquiers jouent le jeu, quelle que soit la structure de la radio, que nous, on continue aussi parfois à passer des messages et en tant qu'annonceur, à continuer à vous aider, parce que en plus, la radio, je trouve que pendant cette période de crise, elle trouve toute sa place, elle est très présente dans les foyers, dans les voitures un peu moins, parce qu'on se déplace beaucoup moins, et puis surtout, elle sait très bien donner la parole à ses auditeurs. Et ça, c'est très important. Je ne dis pas qu'on redécouvre la radio, mais on s'aperçoit que c'est vraiment l'un des médias les plus proches. Tout est important, les réseaux sociaux bien sûr qui explosent en fréquentation, la télé, la presse écrite qui continue aussi ce rôle de maillage, mais la radio, on s'aperçoit que c'est pas un média à côté, quoi. C'est un média vraiment au cœur de ce dont on a besoin.
Et justement, Xavier Bertrand, nous avons annoncé dès la semaine dernière sur Radio 6 le lancement de votre opération Un masque pour chacun. Vous vous engagez à offrir à chacun des habitants de la région un masque en tissu lavable et réutilisable. Qu'en est-il? Quand les habitants pourront recevoir leurs masques? Est-ce que vous avez déjà reçu des commandes? On a parlé ce matin sur Radio 6 des villes de Berck et de Rinxan, par exemple.
Oui. Alors, la première chose, c'est qu'à partir du 11 mai, avec les communes qui acceptent d'être partenaires, il y en a plus de 1000 qui nous ont déjà répondu en même pas 24 heures. La distribution se fera dans les communes, par les communes. Donc, la région mettra à disposition gratuitement un premier masque en tissu réutilisable. Bon, un masque c'est bien, mais plusieurs masques c'est mieux. C'est pour ça que les communes qui avaient déjà commandé un certain nombre de masques, je leur dis surtout gardez vos commandes et ça viendra en plus de ce que fait la région, ça sera pas à la place. Parce que, regardez Élise, mettre un masque à disposition, c'est parce que je veux qu'il n'y ait personne qui, inquiet pour ressortir, se dise « je ne peux pas sortir, j'ai pas de masque ». Et je ne veux pas que les gens commencent à se prendre la tête en se disant « mais alors, il y aura deux catégories ». Il y a ceux qui seront dans les très grandes métropoles, on va avoir prévu pour eux. Et puis moi, je suis dans une commune rurale, personne n'aura rien prévu pour moi. Pour moi, c'est la même région. On habite une commune de 200 habitants ou on habite une commune de 200 000 habitants. Il n'y a pas de citoyens de seconde zone. Donc, on commence comme ça. On va plus loin. Ensuite, on est en train de commander avec les communes qui sont intéressées, là aussi j'en ai beaucoup, une sorte de groupement de commandes pour que des entreprises textiles ou autres de la région qui fabriquent des masques en tissu continuent à en produire. Parce que je vous l'ai dit, un masque, ça peut être lavé 20 fois. Mais un masque, si vous le portez deux fois dans la journée, c'est le maximum, il faut le laver. Pendant qu'il est lavé et qu'il sèche, il faut peut-être mieux en avoir un autre. Donc vous voyez, la région engage les choses, mais ce n'est pas suffisant. Et j'attends aussi que l'État, au niveau national, nous dise clairement ce qu'il compte faire pour chaque citoyen, on est en train aussi, alors ça peut sembler un peu compliqué, j'ai peut-être l'air de rentrer dans le détail, des masques pour les enfants, parce que le visage à 4 ans, c'est pas le même qu'à 40 ans. Donc on essaye encore une fois de se mettre à la place des gens, de trouver des solutions pratiques, et puis surtout de pas laisser les gens dans leur coin avec le sentiment qu'on les abandonne. On veut avant tout les protéger. Et mon autre idée derrière ça, c'est que des masques, on en aura régulièrement besoin. Tant que l'OMS nous aura pas dit, tant que l'Organisation mondiale de la santé nous aura pas dit « Hey, Covid-19, c'est derrière nous », je pense que les gens, dans la boîte à gants, chez soi, on aura un masque et on voudra un masque. Donc je pense qu'il y aurait la place pour que dans la région, on fabrique des masques en tissu réutilisables, que ça donne de l'emploi et que ce soit peut-être la première marche de la relocalisation que je veux, moi, dans la région.
Et justement, alors, Isabelle, qui est une auditrice de Radio 6, qui nous pose une question sur Facebook. Antoine également, qui est artisan dans le bâtiment et qui peut, dès à présent, reprendre son activité sous un certain protocole, notamment le port du masque, avoir du gel, des gants. Les commerçants, les artisans, n'arrivent pas, pour l'instant, à trouver de masques pour les réouvertures. Comment ils font ?
Alors, il y a deux choses. Il y a leurs organisations professionnelles, il y a l'U2P, les artisans, c'est Laurent Rigaud dans la région et c'est Monsieur Griset qui ont justement organisé toute une filière. Il y a un site internet de la Chambre de commerce qui est en lien avec la Chambre de métier qui permet très clairement de mettre en relation avec des masques. Là, on parle bien de masques jetables. Vous savez, les fameux masques chirurgicaux et jetables. On a organisé aussi les choses. Nous, on a prévu pour chaque personne, mais c'est vrai que quelqu'un qui travaille avant le 11 mai et après le 11 mai aura besoin de plus de masques, parce que là, ils vont en utiliser vraiment tous les jours. Donc, il y a une filière qui s'organise dans la région. La région est partenaire, l'État aussi, mais aussi avec la chambre de commerce. Et c'est une plateforme, je ne sais pas si tout le monde pourra le noter, peut-être qu'on le redonnera, Élie, si vous voulez bien, c'est entraide.hautdefrance.cci.fr. entraide.hautdefrance.cci.fr. C'est la question du gel. Il y a moins de pénurie qu'à un moment donné. C'est la question des gants. C'est la question, bien évidemment, des masques. Et puis, pour les personnes qui auraient vraiment à la fois du temps à passer pour faire des masques ou des entreprises qui disent « Moi, je peux pas en faire, mais allez, j'ai des tables de coupe que je peux vous passer. » C'est le numéro vert de la région, le 0800 02 60 80, 0800 02 60 80, où là, on met tout le monde en relation. Donc, si quelqu'un est vraiment gêné pour reprendre l'activité, c'est soit la plateforme de la CCI, soit, si vous voulez qu'on vous oriente, le numéro vert de la région.
Merci, Xavier Bertrand. La région va se relever de cette crise sanitaire et économique ?
Oui, mais ça va être dur. On va pas se raconter d'histoire. On a entendu les chiffres ce matin. En France, on a plus de 20 000 personnes qui ont disparu. C'est une des crises sanitaires les plus importantes qu'on ait connues. Faut quand même pas l'oublier, parce que même si on voit à la télé le nombre de morts qui baisse, il y a encore des familles qui sont endeuillées. On voit le nombre de places en réanimation utilisées qui baissent. C'est pas derrière nous. Et on sait que le confinement a évité que tous nos hôpitaux, tous nos établissements de santé soient submergés. Mais derrière, si on ne tient pas le confinement jusqu'au bout, ça peut redémarrer, ça peut redémarrer très vite. C'est pas facile, hein, le confinement. C'est pas facile, puis il y a de leçons à donner à personne, parce que vous vivez pas de la même façon quand vous êtes à deux dans une maison à la campagne avec un jardin, et quand vous êtes à quatre dans 50, 40 ou 60 mètres carrés, et que vous n'avez pas de balcon, et que vous n'avez pas de cour. Donc c'est dur pour tout le monde, c'est une épreuve. On est capable de tenir. On est capable de tenir, et surtout derrière, il faudra se relever. Donc il y a prêté main forte à ces soignants qui sont extraordinaires, en hôpital public, privé, mais aussi dans les EHPAD. Faut pas oublier les gens qui travaillent dans les EHPAD, faut pas oublier nos aînés. Et puis derrière, il y a aussi autre chose, Élise, que je voudrais dire, c'est que on s'entend pas tous pareil dans les familles. Il y a des habitations, c'est des vraies cocottes minutes, hein, des vraies cocottes minutes, et il y a parfois une façon de relâcher la vapeur, c'est bon, bien évidemment, les réseaux sociaux, de se passer un coup de fil, de se dire bonjour entre voisins à quelques mètres d'écart. Et puis, il y a aussi un numéro qui existe dans la région, un numéro de soutien psychologique. Je vais donner le numéro, c'est le 0800 130 000. 0800 130 000. C'est un service qui est complètement gratuit. Au bout du fil, il y a des gens de la région aussi qui peuvent vous parler, vous donner des conseils et tout ça, parce que, je le disais à l'instant, c'est quand même vraiment, vraiment une épreuve. Puis en ce moment, il n'y a plus la machine à café. Il n'y a plus le café où on peut se retrouver avec des amis le matin avant d'aller travailler ou alors en fin de semaine. Il ne faut pas hésiter à utiliser ce numéro.
Vous parlez évidemment des foyers dans lesquels le confinement est très très compliqué. On en a eu des exemples ces derniers jours sur Radio 6. Vous parlez aussi des seniors. Les visites sont de nouveau autorisées cette semaine. Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur en tant qu'ancien ministre de la Santé, mais pas seulement. Vous avez signé un appel aux états généraux de la seniorisation de la société. Vous faites partie des 54 contributeurs. Pour vous, c'est l'un des axes forts, les seniors ?
On ne s'occupe pas bien de nos aînés. Le vieillissement, c'est quelque chose qu'on a du mal à accepter dans notre société, le regard que l'on porte sur les aînés. Autour de soi, nos très proches, oui, et encore pas assez bien. Je pense, vous savez, qu'une société, elle doit, allez, on va dire, être, l'État doit être là tout le temps, mais il doit surtout être là à deux mamans dans la vie. Les mamans où on est le plus fragile. Au tout début de la vie, c'est la petite enfance, c'est l'enfance, et puis c'est au soir de la vie. Et je pense que les soignants le disent depuis longtemps, pas assez de moyens dans les EHPAD, le maintien à domicile, tout ça, non seulement c'est une question d'attention portée aux plus fragiles, mais c'est aussi, derrière, pour ceux qui ne penseraient qu'à ça, c'est aussi des emplois dont on a besoin. Et des emplois qu'il faut arrêter de payer avec un lance-pierre également. Vous savez, à la sortie de cette crise, il ne faudra pas non plus qu'on ait la mémoire qui flanche, parce que je l'ai dit, il y a les soignants qui sont en première ligne. Tous les soignants, quels qu'ils soient. Pas oublier les ambulanciers, les infirmiers, les aides-soignantes, et puis même ceux qui, dans les hôpitaux, les cliniques ou dans les EHPAD, font à manger, tous ceux qui sont là pour entretenir les locaux et permettre que ça continue à tourner. Et puis après, il y a tous ceux qui sortent de chez eux tous les jours, pour aller bosser. Et heureusement qu'ils sortent de chez eux pour aller bosser. C'est les policiers, les gendarmes, les pompiers, c'est le commerçant, c'est la caissière, c'est le routier, tiens, qui prend le camion le matin à 5 heures, mais s'il se lève pas et s'il livre pas, bah, on n'a rien à manger, justement.
C'est l'ouvrier
du secteur agroalimentaire. Et c'est nos paysans qui préparent ce qu'on va manger dans quelques mois. C'est nos pêcheurs. Mon Dieu, nos pêcheurs, faut pas les oublier. Déjà qu'ils étaient inquiets entre le Brexit, la concurrence des navires usines hollandais, et là maintenant, voilà qu'arrive Covid-19. Et tout cela, il faut pas seulement qu'on leur dise merci. Vous savez, moi j'ai lancé l'idée d'avoir une prime de reconnaissance nationale pour cela, mais derrière il y a aussi autre chose. Hein. C'est pas souvent les mieux payés. Et tous ceux qui sont indispensables, les invisibles d'hier, comme je les appelle, faudra quand même qu'on revoie la question des salaires et des bas salaires. Notre société, elle ne peut pas continuer à marcher sur la tête, pas charrier.
Merci Xavier Bertrand d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Radio 6. Vous le savez, vous êtes le bienvenu sur la première radio de la Côte d'Opale.
Merci à vous, merci pour ce que vous faites et merci aussi pour ce lien que vous entretenez. La solidarité entre les gens, bah, je pense que c'est ce qui fera notre solidité, notre capacité à rebondir, même si c'est loin d'être fini et c'est dur pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens.
Merci Xavier Bertrand.